Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Deuxième partie des experts de l'IMO autour de notre spécialiste maison Marie Cœur de Roy. J'adore. Et nos deux experts, Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet, et Jean-Louis Delloro, poids lourd de cette rédaction, rédacteur en chef adjoint. On va arrêter avec les private jokes. Rédacteur en chef adjoint de BFM Business.
Il se taquine beaucoup.
Surtout sur les questions de poids d'ailleurs.
Surtout sur un secteur de poids pour changer de sujet et revenir à ce qui nous intéresse, c'est le bureau. Et donc, on l'a teasé avant la pub, on va parler maintenant de ce que sera le bureau, de ce que commence à être et de ce que sera le bureau demain, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de modifications profondes. On a évoqué la question du télétravail, de beaucoup de choses, et il s'est passé quand même, avant même cette question du Covid, l'émergence de ce besoin de flexibilité avec des baux qui étaient très compliqués à gérer pour les entreprises. Donc, je vais parler du coworking.
Oui, travailler ensemble.
Travailler ensemble. Ouais. Et l'un des mastodontes du secteur, c'était, je dis au passé, WeWork. Est-ce que là, on est en train de l'enterrer, WeWork ? Et est-ce qu'on enterre avec WeWork le principe même du coworking ?
Mais attendez, qu'est-ce qui n'allait pas avec WeWork ? Excusez-moi,
c'est
mais
ma question, en fait.
Oui, non, mais qu'est-ce qui n'allait pas ? C'était le concept ou c'était le prix ?
Alors, ou c'était le management ? C'était peut-être la troisième réponse. Qu'est-ce qu'on gardera de WeWork ? Ce qu'on gardera de WeWork, c'est le fait que... Tout comme dans beaucoup d'autres industries avant, on passe de la propriété à l'usage et on passe d'une consommation qui est une consommation extrêmement rigide. Je possède, c'est-à-dire en fait, soit je possède mon actif, soit j'ai un bail qui m'engage pendant 3, 6 ou 9 ans, à une flexibilité qui va davantage correspondre avec l'usage. Donc, ce qu'on garde du coworking, et notamment ce qu'on garde de WeWork, c'est cette capacité à démocratiser la flexibilité, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'être dans une alternative très simple, c'est je signe du bail ou je signe du bail, pas d'alternative. Ouais. Le problème derrière WeWork, si on peut en citer un, c'est peut-être la vitesse à laquelle la croissance a eu lieu, ce qui, dans un monde du coworking, qui est un monde qui peut être profitable si on l'opère en faisant très attention, on va
c'est
généralement...
C'est quoi ? Ils ont acheté des bâtiments trop chers et loué pas
ils ont généralement
cher.
Loué. Alors, il y a eu quelques
le
sujets
problème,
d'achat.
C'est aussi ça, le problème. C'est qu'ils ont rien acheté, en fait.
Enfin, quasiment ah bah, ils ont
acheté quelques-uns.
Ils louaient, en plus, ils louaient sur des baux à 10-15 ans.
Oui. C'est eux ça, qui prenaient le risque, en fait. C'est ça, le truc.
C'est eux qui prenaient le risque. Et pour louer à des gens sur des baux de 6 mois, 1 an, etc. Oui. Donc, en fait, ils prennent le risque. Et en fait, le gap en rendement, il est pas tellement, il n'était pas suffisamment important en fait.
La complexité, c'est qu'ils prennent un risque, mais un risque finalement assez un entre-deux. C'est-à-dire que plutôt que de prendre un risque et de dire je vais louer comme dans l'hôtellerie à la journée, en générant naturellement une marge qui est plus importante, ouais. Ils cherchaient à sécuriser autant que possible en ayant des contrats aussi longs que possible, mais qui convergeaient assez vite vers du 2 ans et donc pas très loin
pas
du
très
3
loin
ans.
De finalement,
ce qui signifie qu'on allait valoriser le fait que ce soit une offre clé en main qui a complètement changé la donne dans l'immobilier, il faut absolument le reconnaître ça, mais ce qui fait que leurs marges ont été extrêmement contenues et si en plus de ça, vous louez des actifs qui sont soit trop chers, soit trop centraux, soit pas assez optimisés, alors vous avez un effet ciseau qui est dramatique.
On en parle, il y a aussi l'éléphant dans la pièce dont on vient de parler juste avant, c'est-à-dire que le besoin de mètres carrés, quand il y a une très forte tension sur le marché des bureaux et qu'il faut trouver des espaces et tout, c'est pas évident. Mais quand vous avez 5 millions de mètres carrés vides dans Paris, en fait, est-ce que vous avez vraiment besoin absolument d'avoir cette souplesse-là ? C'est pas dit. Et puis en plus, il y a d'autres soucis. Moi, je pense aux petits patrons de PME. La plupart des petits patrons de PME, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une holding, ils achètent le bien immobilier en question, ils le louent à leur entreprise, ça optimise tout ça fiscalement et ça permet de se construire un patrimoine. Et donc, en fait, un petit patron d'une PME qui fonctionne bien, il n'a aucun intérêt à faire du WeWork.
Bon, du coup, ça a complètement défoncé le business model de Victor, là ?
Ah non, absolument pas, parce que pour le coup, il y a un besoin de flexibilité qui n'a jamais été aussi important. Je reprends mon point tout à l'heure, c'est plus que jamais les utilisateurs, quel que soit l'état de leur entreprise, demandent de la flexibilité. Il la demande à qui ? Il la demande à leurs bailleurs. Leurs bailleurs sont qui ? Ce sont les principales foncières, asset managers, et eux, aujourd'hui, ne savent pas et ne souhaitent pas opérer la flexibilité. C'est ils continuent de considérer que la meilleure relation avec un client, c'est leur client qui est d'ailleurs plutôt l'investisseur, va être une relation avec une entreprise locataire qui va durer 9 ans et qui ensuite repartira pour 9 ans sans discussion particulière. Sauf que ce qu'on voit bien, c'est que l'espérance de vie moyenne d'une entreprise a chuté ces dernières années et que la durée du bail rigide, elle, est restée aussi élevée que par le passé.
Chez Comet, vous avez un modèle de bail flexible en 3 couches. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu comment ça fonctionne ?
Oui, alors, chez Comet, nous ne faisons pas notre offre structurelle, ce n'est pas cette offre de bureau flexible, ce n'est pas du coworking, si vous voulez. Dans le bureau, il faut avoir trois produits différents très complémentaires. Du bail, parce que le bail, on pourrait y revenir, le bail permet de sécuriser la base dont n'importe quelle entreprise a besoin au meilleur prix, au meilleur coût. Du coworking, c'est-à-dire une offre de flexibilité qui va être une offre, une flexibilité à l'année. J'ai la capacité, année après année, d'augmenter de quelques postes de travail ou au contraire de réduire un peu. Et une flexibilité à la journée. Et j'ai envie de parler de cette courbe en M que les directeurs immobiliers désormais voient. La courbe en M, c'est quoi? C'est derrière une occupation moyenne des bureaux qu'on a loués à 45% par ses collaborateurs. Derrière, on n'est pas à la maille de la semaine, on n'est pas à 45% tous les jours. Il y a de très fortes disparités entre un lundi faible, un vendredi encore plus faible, un mardi, un mercredi et un jeudi élevé, avec un mercredi un peu plus bas.
Ah, on voit bien le M. Ouais.
On voit bien le M, on voit très bien le M. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'une entreprise demain a besoin d'avoir et du bail pour les surfaces dont elle est sûre d'avoir besoin du lundi au vendredi pendant des années, et la flexibilité année après année d'augmenter en prenant quelques postes en plus, et notre cœur de métier qui est la flexibilité d'avoir accès pour une demi-journée ou une journée à de la salle de réunion avec plus ou moins de services, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on est tous là au bureau, c'est pour être où? Est-ce que c'est pour être derrière un bureau? Ah non. En fait, désormais, le bureau est un lieu de collaboration et de sociabilisation. On va au bureau pour se retrouver. Et sinon, on travaille seul, d'autant mieux qu'on n'est pas dérangé. Donc, pas dans un open space, plutôt à la maison si on ne doit pas s'occuper de ses enfants.
Pas avoir les enfants, par contre.
Donc, notre offre, en fait, pour répondre à votre question, ouais. Notre offre, c'est une offre de flexibilité à deux niveaux. On a la flexibilité extrêmement court terme que personne d'autre ne propose sur le marché. On propose à des corporates, et nos clients sont avant tout de très grandes entreprises, de la flexibilité sur la salle de réunion ou l'espace événementiel pour une demi-journée ou une journée, et désormais aussi une flexibilité sur le poste de travail à l'année.
Moi, je suis désolée, j'ai compris le principe général, mais je n'ai pas compris techniquement. Il faut m'expliquer. Très simplement, vous avez en votre possession des bureaux que vous louez, vous adaptez les bureaux déjà loués par des usagers entreprises, et donc du coup vous essayez de réadapter ce qu'ils ont déjà pour sous-louer éventuellement une partie quand c'est inoccupé. Il va falloir me parler simplement.
Alors je vais dire, nous avons un parc d'immobilier, un parc de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés à Paris, Bruxelles, Madrid, où nous avons et notre offre de lieux de réunion événementielle où nos clients sont avant tout du SBF 120 ou CAC 40 et viennent pour faire des réunions, des formations, des événements chez nous.
Ouais.
Et nous avons également une offre qui est aujourd'hui dans ces débuts. Nous avons démarré il y a un an là-dessus, qui est une offre qu'on appelle non pas Comet Meetings mais Comet Workplaces, qui est une offre de bureaux à la coworking pour schématiser, mais qui ne tombe pas dans les travers du coworking classique et qu'on n'a jamais assez de salles de réunion et donc c'est un point de friction. Et on ne se sent jamais chez soi parce qu'on a l'impression qu'on doit se fondre dans la culture du coworker. Et donc ça, ce sont les offres que nous avons. Et la vision que nous avons pour l'immobilier de bureau demain, c'est que nous irons de plus en plus vers une convergence entre le métier de propriétaire et le métier d'opérateur. Et que les propriétaires, les foncières de ce monde n'auront plus la possibilité de seulement espérer que leurs locataires louent et prennent à bail 100% de la surface si elles ne les achètent pas, mais qu'elles devront demain leur proposer plusieurs contrats que nous sommes en mesure d'exécuter, du bail évidemment, mais beaucoup moins que par le passé. Je pense qu'il y aura 50% de bail seulement, de la flexibilité à la journée et à l'année.
Là, on parle beaucoup de surface, d'espace, de bureaux disponibles. J'aimerais qu'on parle des services aussi. Qu'est-ce que les entreprises utilisent le plus en termes de services?
Le baby-foot. Baby-foot.
Je trouve que c'est un exemple parfait
de ce qu'il faut pas faire.
Exactement.
On est d'accord.
Et de ce que non mais on peut le proposer.
Petit message au baby foot du deuxième étage.
Il a été enlevé d'ailleurs.
Ah, oui. Ce qui est bien qu'il ne sera pas utilisé. Mais ça a trop longtemps été le symbole d'un management qui considérait qu'il allait répondre aux attentes des utilisateurs, de ses utilisateurs, de ses clients qui étaient ses employés. Mais si en revanche quelqu'un jouait à 14h au baby foot, le regard noir le dissuadait probablement d'y retourner.
Il a été enlevé chez BFM.
À cause d'un regard noir?
Non, celui de Stéphane, il est très jugeant.
Donc, quels sont les services qui sont... Alors, beaucoup de services étaient soi-disant utilisés par le passé et je pense ne seront plus demandés demain. Je vais prendre un exemple, la conciergerie. Le pressing de la cordonnerie. Alors, la question est de savoir si on porte encore des costumes ou des chemises. Mais si on en porte encore, et compter les travails désormais une journée par semaine, va-t-on aller mettre son costume et sa chemise au pressing au bureau et ensuite le prendre dans l'RER ou le métro, ou sur son vélo, encore pire, ou au contraire, aller chez soi, à côté de chez soi, dans son pressing de quartier?
On peut aussi venir travailler en jean et garder un costume, quelques chemises au bureau et dans son
trailer
aussi. Il y a des différentes façons. Maintenant, l'uniforme n'est plus forcément obligatoire en entreprise.
Non, c'est vrai. Mais ce qui fait que désormais, le service principal qui va être attendu par des employés est ce qui va permettre de recréer du lien. Parce que le principal rôle du bureau maintenant, c'est de permettre de collaborer et de créer du lien. Parce que c'est désormais ce qui fera qu'un employé partira.
Bon, là vous êtes en train de nous dire ce qui n'existe plus. Alors, plus de baby-foot, plus de conciergerie, mais quels sont les services qu'on vous demande aujourd'hui?
Tous ces services autour de la collaboration et la sociabilisation, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'espace de collaboration, avoir une capacité à les réserver
des salles de réunion,
très intuitive, des salles de réunion bien équipées, où on n'a pas besoin de s'écharper avec le câble HDMI ou USB-C pendant 10 minutes. On a une capacité à réserver ces salles de réunion de façon extrêmement intuitive avec de la tech, où on a du service, mais le service qui est utile, c'est-à-dire le service qui va vous permettre de créer du lien avec un peu d'événements qui vont vous permettre de sociabiliser les espaces qui soient adaptés.
Mais du coup, là, on est en train de gommer progressivement tout ce qui faisait le bien-être au bureau et qu'on nous avait vendu de manière assez massive dans les années 2010.
Alors, faut voir ce qu'on vendait.
La console de jeu, les salles de sieste, les choses comme ça.
Salles de sieste, oui, je pense qu'assez peu y ont cru, à part les GAFAM, et ça reste utilisé, mais c'est très très lié.
Bah nous, on en a, mais après, ça dépend de la nature, faut quand même le dire, ça dépend de la nature de l'entreprise. Quand on a des gens qui
bossent
sur horaires décalés, effectivement.
Et la culture, voilà. Exactement. Mais non, en fait, désormais, les services qui sont nécessaires sont ceux qui vont permettre de recréer du lien et de collaborer. Donc, recréer du lien, si le fait d'avoir un espace de détente permet de le faire, évidemment qu'il faut que l'entreprise le propose. Mais il ne faut pas juste mettre un baby-foot sans adapter la culture et le mode de management. Si on ne l'adapte pas, alors on se donne dans conscience que ça ne marchera pas.
C'est quoi le bureau hôtel?
Bureau hôtel, c'est un bureau, vous vous rappelez, depuis 2010 à peu près, on dit qu'il faut que le bureau soit comme la maison. On a beaucoup dit ça, tandis qu'avant le bureau était plutôt comme un hôpital. Le bureau ensuite a dû être comme à la maison pour essayer d'expliquer que c'est pas grave que vous ne soyez pas à la maison. Désormais, le bureau doit être beaucoup mieux que la maison, parce qu'il faut qu'on légitime pourquoi on va demander à ses employés de revenir au bureau. Et donc le bureau hôtel, c'est un bureau où se sont accueillis, où il y a des services de restauration notamment, et où on a surtout derrière l'hôtellerie, ce qu'il y a, c'est la flexibilité. Et il faut évidemment penser à l'employé.
C'est pas un endroit où l'on dort.
Pardon, c'est pas un endroit où on dort.
Vous êtes en train de nous proposer
exactement
un avenir du bureau.
Non, parce que pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs et téléspectateurs, pour préparer l'émission, on demande systématiquement à nos experts qui viennent de nous proposer des thématiques, des sujets qu'ils souhaitent aborder. Effectivement, Victor nous proposait le sujet bureau-hôtel. Et alors là, énorme stress en se disant, mon Dieu, va-t-on nous faire vivre au bureau? Est-ce que c'est ça le bureau?
Ça va arriver pendant les Jeux Olympiques à Paris.
Bien sûr, mais là...
Ce qu'il y a derrière l'hôtellerie, c'est du service pour les utilisateurs et de la flexibilité. Je vais utiliser le produit hôtelier que lorsque j'en ai besoin. Donc, je dois être mieux accueilli que n'importe où ailleurs. Et donc, il faut aller vers davantage de cette culture d'hospitalité dans le bureau et avoir une capacité dans des bureaux où, enfin, on sera dans la flexibilité. Et je ne pourrais pas plus parler de flexibilité. La flexibilité n'existe pas dans le monde du bureau, n'existait pas jusqu'à il y a 5 ans. Désormais, les foncières doivent s'adapter, d'où cette convergence propriétaire-opérateur.
Bon, il nous reste peu de temps et je voulais absolument aborder ce sujet-là avec Jean-Louis parce que on a quand même des députés et sénateurs en l'occurrence qui travaillent pour essayer de résoudre, alors non pas la crise du bureau pour l'instant, mais la crise du logement. Et on a un projet de loi dont on a beaucoup parlé qui est passé entre les mains des sénateurs cette semaine, celui qui vise à mieux réguler la location saisonnière. Jean-Louis, on en est où? Parce que je sais que ça intéresse tout le monde, notamment en termes de fiscalité, je pense.
C'est un gros sujet, mais c'est un sujet qui est quand même très technique. On va dire qu'on s'attaque surtout aux avantages fiscaux. Alors, une partie des avantages fiscaux. Vous savez, quand vous louez en meublé, vous avez le choix. Soit vous faites ce qu'on appelle du régime réel, soit vous avez un abattement forfaitaire. Et donc, votre abattement forfaitaire, vous déduisez une partie de vos revenus et ça va dépendre du type de meublé. Et bien là, ce qu'on veut, c'est remettre un peu tout le monde au même niveau, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus d'abattement quand vous faites du Airbnb en grande ville
que quand vous êtes en location nue traditionnelle. Quoi.
Que quand vous faites de la location vide ou quand vous faites du meublé
même du meublé
terme,
longue durée.
C'est-à-dire sur 3 ans, voilà. Et donc là, on dit, on enlève tout, on fixe à 30% d'abattement, donc moins 30% sur les revenus qu'on peut déduire pour tous les meublés. Et on garde une petite exception pour les meublés classés dans certaines zones.
C'est bien ça, Jean-Louis, non?
Donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais il y a un gros mais. C'est, alors, les parlementaires l'avaient vu au début, mais là, c'est un peu passé à l'as. Il y a un problème sur l'amortissement en régime réel. Alors, c'est quoi l'amortissement? C'est toujours un peu compliqué. C'est comme un ordinateur dans une entreprise. Vous savez, on achète un ordinateur et puis on l'amortit sur 3-5 ans. Chaque année, on enlève 500 euros et ça permet de déduire ça de ses revenus. Alors, on fait la même chose, en fait, en meublé quand on est en régime réel. En fait, on peut amortir son bien immobilier. Et là, vous voyez bien qu'avec les montants en jeu, vous l'amortissez sur 20 ans ou 25 ans. Ça dépend du... Faut voir un comptable là-dessus. Et donc, finalement, on va vous arriver quasiment à effacer tous les impôts. Donc, tous ceux qui sont un peu malins et qui font de la location type Airbnb, en réalité, ils sont au régime réel. Ils ne sont pas du tout à l'abattement forfaitaire. Parce que même s'il y avait des abattements qui allaient jusqu'à 71% en meublé de tourisme classé,
en fait,
au régime réel, vous arriviez à 100%. Donc, en fait, c'était mieux.
Mais du coup, vous êtes en train de nous dire qu'on se trompe de combat?
C'est pas qu'on se trompe
de levier.
C'est un levier, mais en fait, on en oublie un qui est essentiel. Et en fait, derrière ça, tout le problème, et ça, Marie en a souvent parlé, c'est qu'en fait, on n'a pas de statut de bailleur privé. C'est extrêmement complexe entre de la location vide. Est-ce que c'est un régime forfaitaire? Est-ce que c'est un régime réel? Dans quelle zone vous êtes? Enfin, en fait, c'est un peu n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Puis tout ça, en fait, c'est plein de choses qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Non, il faut un statut de bailleur privé.
C'est-à-dire
avec des règles
inciter et orienter l'investissement des ménages vers ce dont on a besoin en termes d'offres locatives à destination des locataires. C'est à peu près ça.
Alors,
le sujet.
Soit on peut dire, on se décide, c'est le marché qui décide, c'est aussi une option, mais dire, en tout cas, tout le monde est à égalité. Donc voilà, on privilégie. Mais aujourd'hui, on privilégie clairement la location saisonnière à la location longue durée. Quand on est en pleine crise du logement, qu'il y a des gens qui commencent à aller dans les campings ou dormir dans leur voiture, ça paraît quand même assez aberrant de réserver autant de logements pour des touristes.
Un invité nous disait cette semaine, dans cette tentative de rééquilibrage entre location traditionnelle et location meublée touristique, qu'on se trompait de combat, qu'au lieu de tirer sur les locations meublées touristiques, on ferait mieux d'assouplir un petit peu le marché locatif traditionnel.
On peut faire les deux.
Qui était beaucoup trop contraint de son point de vue pour les propriétaires. Je sais que Marie ne sera pas d'accord avec moi.
Si, je dis on peut faire les deux.
Ouais. Non, mais c'est pas faux aussi. C'est-à-dire qu'en plus, même si fiscalement, déjà, c'est plus avantageux la location Airbnb, mais qu'est-ce que vous êtes 10 fois moins embêté en termes de normes. Etc. Vous n'avez même pas besoin de respecter pour l'instant.
Alors non, si normalement dans
justement dans le
projet de loi
ils veulent
prévoit
remettre,
que...
mais le DPE, vous savez, vous êtes interdit de location. Pour l'instant, en fait, ça s'applique pas.
C'est-à-dire qu'on peut
location
louer
Airbnb
thermique en location
plus pour longtemps. Plus pour longtemps.
Alors on verra parce qu'il y a des dans les stations de ski comme on va faire.
Oui, c'est ça. Ils vont faire quand même quelques petites exemptions parce qu'à un moment donné, la bergerie au fond de l'Arzac, c'est compliqué de la mettre en A.
Donc voilà, mais en fait, il y a beaucoup moins de contraintes, puis vous avez beaucoup moins de risques quand même en location saisonnière. Bon, les gens qui viennent pour squatter, il y en a quand même très très peu.
Oh.
Alors que vous êtes propriétaire d'un logement en longue durée ou même de votre propre logement et quelqu'un vient squatter, ça reste quand même très compliqué en France de récupérer son bien.
Oui, oui. Je ne pas me lancer sur le sujet.
Merci beaucoup. On arrive au terme de ces experts de l'IMO. Merci à tous.